Bon, donc il s'agit d'une. Donc moi, je suis mathématicien de mon métier, mais je ne vais pas vous parler de mathématiques. Il s'agit d'une étude qu'on a terminée il y a quelques années avec deux collègues qui sont plutôt économistes ou économètres, Pierre Dubois et Jean-Charles Rocher. Et la question qu'on s'est posée, c'est à partir de moyens bibliométriques, encore une fois, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un mathématicien réussit en tant que mathématicien, et qu'est-ce qu'on peut faire pour quels éléments on peut mettre en avant pour améliorer éventuellement ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la productivité scientifique d'un mathématicien? C'est quelque chose qu'on va revenir dessus. Donc, il y a beaucoup de définitions possibles. Nous, on a défini un indicateur qui valait ce qui valait, mais on a remarqué que les réponses qu'on donne sont peu dépendantes de cet indicateur. Et on s'est posé des questions qui sont à la fois des questions descriptives, c'est-à-dire où se fait la recherche importante, entre guillemets. Est-ce que le brain drain est aussi important qu'on peut le croire? C'est une question qui est apparue ce matin dans un autre exposé. Comment est-ce que la productivité varie avec l'âge? Donc ça, c'est des questions parfaitement descriptives sur lesquelles on peut donner des éléments de réponse. Et puis, des questions plus subtiles et plus délicates. Qu'est-ce qui fait un bon chercheur? Comment est-ce qu'on peut améliorer un département? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager, disons, les chercheurs à faire de la meilleure recherche? Voilà. Alors, on a fait pour les mathématiques. Pourquoi les mathématiques? Alors, une réponse possible, c'est que je suis mathématicien, donc c'est le domaine que je connais le mieux et sur lequel je pouvais le plus facilement dire quelque chose. Il y a d'autres raisons assez objectives qui permettent de dire que c'est un choix relativement naturel. Alors, d'abord, il y a des éléments qui concernent le type de publication que font les mathématiciens. Donc, typiquement, ils le font dans les journaux qui sont bien répertoriés, avec une liste de journaux qui est relativement finie, ce qui rend les choses plus faciles à contrôler que dans d'autres disciplines. Par exemple, en informatique, où on va avoir des conférences qui jouent un rôle beaucoup plus important. On a une situation où la plupart des articles ont peu d'auteurs. Alors ça, c'est important aussi parce que ça permet de mieux identifier la part des auteurs individuellement. On a une stabilité assez grande sur le long terme. C'est une discipline qui n'est pas une discipline nouvelle, où il n'y a pas d'évolution très rapide, par exemple sur la hiérarchie des revues, ce qui permet aussi de simplifier les choses. C'est une grande discipline en termes de nombre de chercheurs actifs, et là aussi, ça permet de faire une analyse qui a une certaine valeur statistique. Et puis, quelque chose sur lequel je vais revenir juste après, on a de très bonnes données pour les mathématiques, qui sont bien meilleures et beaucoup plus faciles à interpréter que les données qu'on a dans d'autres disciplines. Voilà, alors, autre élément important, il y a peu besoin d'équipement. Donc ça signifie que là aussi, si on veut mesurer la productivité d'un chercheur, ça ne va pas dépendre de manière très massive du fait qu'il ait obtenu ou pas obtenu des financements dans la période récente. Bien sûr, ça peut jouer un rôle. C'est un domaine qui est très international. Donc on peut penser qu'il n'y a pas de différence fondamentalement entre les mathématiques que fait un chercheur chinois, portugais ou américain, par exemple, même s'il y a des différences de spécialisation disciplinaire par pays qui peuvent jouer un rôle. On n'a pas tellement de contraintes de type, par exemple, politique, sur ce que peuvent faire les chercheurs dans un pays ou dans un autre. Donc, tout ça fait que c'est un domaine où il y a une certaine uniformité qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres disciplines. Enfin, dans certaines autres disciplines, mais pas dans d'autres. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'on a de très bonnes données? C'est du fait d'un travail qui a été fait sur une très longue période par l'American Mathematical Society, qui a fait une base de données bibliométrique, qui est une excellente base de données, au sens où elle est très très bien maintenue et elle contient beaucoup d'informations très faciles à exploiter. En particulier, elle comprend essentiellement toutes les mathématiques, c'est-à-dire 2,8 millions d'items à l'époque où on avait fait l'article, maintenant ça doit faire plus de 3 millions. Elle a une identification individuelle de chaque mathématicien. Ça, c'est quelque chose de très important. Si vous avez un mathématicien qui s'appelle Pierre Dupont et un autre mathématicien qui s'appelle Pierre Dupont dans un autre département ou dans un autre pays, ils seront identifiés individuellement par les gens qui s'occupent de la base de données, qui vont identifier le fait que chaque article vient d'un tel ou d'un tel. Et il y a extrêmement peu d'erreurs. En faisant cette étude, on a travaillé sur les données, on a trouvé une ou deux erreurs dans la base de données, mais il y en a très très peu, apparemment. De même, on a une identification individuelle de chaque département, et cette identification est stable dans le temps, donc elle est utilisable. Parce que vous savez probablement, quand vous avez travaillé sur les données en France, en particulier, que c'est extrêmement difficile de savoir où se trouve un chercheur suivant l'affiliation qu'il donne dans son article. Il y a des grandes difficultés. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple, mais dans certains pays, c'est difficile. Et puis, on a aussi une identification précise de chaque champ de recherche. Donc là aussi, c'est important parce qu'on a, comme dans probablement tous les domaines, on a des biais importants entre sous-disciplines. Et c'est important de savoir si un article est dans une sous-discipline ou une autre. Parce que le taux de citation, par exemple, va varier de manière importante suivant qu'on est dans telle ou telle discipline. Voilà. Et puis finalement, donc, l'American Mathematical Society définit une espèce de impact factor qui est bien meilleur du point de vue de l'utilisation qu'on peut en faire pour les mathématiques que les autres indicateurs d'impact qu'on va trouver dans d'autres disciplines. Donc, du point de vue de la qualité, de la visibilité d'un journal dans le champ des mathématiques, c'est un indicateur qui a une certaine validité et une certaine solidité. On pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Je ne voudrais pas qu'on soit trop technique. Voilà, donc ça nous a permis de faire un travail quantitatif sur une population qui est essentiellement une population complète de mathématiciens sur une certaine période. Donc la période qu'on a pris en compte, c'est la période de 1984 à 2006, pour des raisons techniques venant de la base de données essentiellement. Alors on a choisi un certain nombre de journaux, une centaine de journaux, et ce qui représentait au total à peu près 130 000 articles et 32 000 mathématiciens actifs, tels qu'on les a définis, un mathématicien actif étant un mathématicien qui avait publié au moins deux articles dans la période de référence, dans les 100 journaux à peu près qu'on a considérés. Et grâce à la base de données, on a pu obtenir pour chaque article, pour chaque auteur, pardon, la date de première publication. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et on a aussi pu obtenir la date de première affiliation s'ils étaient suffisamment jeunes. D'accord ? Donc c'est important pour des questions de mobilité. Alors là, je vais passer peut-être rapidement sur cette slide. On a défini un indicateur de productivité scientifique d'un mathématicien. Encore une fois, l'un des éléments importants de notre étude, c'est que les résultats qu'on obtient ne sont pas très dépendants de l'indicateur qu'on choisit. Et là, l'indicateur qu'on a choisi, c'est un indicateur qui est relativement élitiste, au sens où beaucoup de mathématiciens pensent que ça correspond à quelque chose qui correspond à leur heuristique, disons, d'évaluation, c'est-à-dire qu'on mettait un poids très important sur les articles publiés dans un petit nombre de revues. Donc si vous demandez à un mathématicien, est-ce que c'est plus important de publier un article dans la meilleure revue du domaine ou 10 articles dans la 30e revue du domaine, la plupart des mathématiciens, je pense aujourd'hui, dans la plupart des sous-disciplines, vous diront que c'est le premier qui est le meilleur. C'est plus important d'avoir un article très important de temps en temps dans une très bonne revue que beaucoup d'articles dans des revues médiocres. Donc c'est à peu près ce qu'on a essayé de modéliser par cet indicateur. Et encore une fois, si on change d'indicateur, les résultats ne changent pas tant que ça. Alors, maintenant, je voudrais donner quelques éléments de réponse. Alors d'abord, je vais parler de statistiques descriptives et ensuite de résultats un petit peu plus fins sur les déterminants de la qualité scientifique, de la productivité scientifique. Alors d'abord, d'un point de vue géographique, on a une vision de ce qui se fait en mathématiques entre 1984 et 2006 par grandes régions. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une production mathématique qui est relativement équilibrée entre États-Unis, Europe, Asie, et on a une évolution rapide qui m'a beaucoup étonné. Ça m'a beaucoup étonné de voir que la part des États-Unis, par exemple, a beaucoup diminué dans la période qu'on a étudiée. Elle est passée d'à peu près la moitié à peu près un tiers. Je ne sais pas si l'évolution a continué. La part de la Chine a augmenté de manière extrêmement rapide. Pour le coup, là, je pense que le résultat qu'on a dépend de l'indicateur qu'on prendrait. Si on avait pris un indicateur moins élitiste, on aurait une part de la Chine beaucoup plus importante. Mais surtout, l'évolution est extrêmement rapide, exponentielle, différenciée suivant les sous-disciplines, les plus importantes en mathématiques appliquées qu'en mathématiques pures, disons, par exemple, mais elle est quand même extrêmement impressionnante. Un autre facteur qui paraît presque étonnant, c'est que la mobilité internationale est faible. Et en particulier, elle est faible parmi les scientifiques les plus productifs. Donc là, on s'imaginait, moi j'avais en tout cas une idée de brain drain beaucoup plus important, où après le PhD, un certain nombre de gens allaient se déplacer vers des pays plus attractifs. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout autant qu'on pourrait l'imaginer dans la période de référence. Et ça m'intéresserait d'ailleurs beaucoup de savoir si cette question a évolué, si les données ont évolué. Mais dans la période qu'on a étudiée, ce n'était pas vraiment le cas. Et en plus, la mobilité internationale était relativement équilibrée. Je vais revenir là-dessus. On n'a pas du tout de phénomène massif où les gens qui vont d'un pays A à un pays B tendent à être les meilleurs, et ceux qui vont du pays B au pays A sont au contraire à être les plus médiocres. Et par contre, un élément important de cette mobilité, c'est que dans tous les pays essentiellement qu'on a étudiés, les gens qui sont mobiles sont les gens qui sont plus actifs que les autres. Donc, que ce soit les pays, entre parenthèses, entre guillemets, les plus avancés ou au contraire les plus en retard, enfin les plus faibles, c'est toujours les outsiders qui sont plus actifs scientifiquement. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les données d'un point de vue pratique ? sur les déplacements internationaux après la première publication. Hein, donc, nous, on n'a pas dans nos données, on aurait peut-être essayé de le faire, mais on n'a pas le lieu de la thèse. Mais ce qu'on a, c'est le lieu de la première publication, qui apparemment est un assez bon indicateur. Parce qu'en général, les mathématiciens publient un article pendant leur thèse ou juste après leur thèse, et très souvent, l'affiliation du premier article sera l'affiliation de la thèse. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas beaucoup de mobilité en réalité. Ça, c'est le premier facteur massif. Par exemple, vous voyez, en France, on a 90% des mathématiciens qui sont dans le lieu de leur première publication. Au Canada, c'est très différent parce qu'on a un flux important entre le Canada et les États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose de naturel. Aux États-Unis, on a 84% des mathématiciens qui sont encore dans le lieu de leur... Enfin, 84% des mathématiciens qui ont fait leur première publication aux États-Unis qui y restent, etc. Alors, ça, c'est en fonction du pays d'origine. Par ailleurs, donc, on a un certain équilibre. Donc, vous voyez, si par hasard, vous regardez le... Là, on a donné l'impact moyen d'après notre indicateur. Donc, c'est un indicateur sur lequel je ne vais pas revenir, mais qui donne un certain nombre de points aux mathématiciens en fonction de leur productivité scientifique annuelle. Et là aussi, on voit qu'on a un remarquable équilibre entre différents pays du point de vue du flux des mathématiciens. Donc, on a bien sûr des flux légèrement différents d'un point de vue qualitatif entre pays, mais la différence n'est pas aussi significative qu'on pourrait l'imaginer. Maintenant, si on va sur les facteurs de production, productivité scientifique, on a deux types de questions qu'on peut regarder. C'est qu'est-ce qui fait qu'un scientifique individuellement est productif et qu'est-ce qui fait qu'un département est productif. Alors, comment est-ce qu'on a fait cette étude? Typiquement, on a essayé d'utiliser le fait que des facteurs varient, par exemple l'affiliation varie, au cours de la vie d'un mathématicien, pour essayer de séparer ce qui provient d'une sorte de qualité individuelle, ce qui, d'un point de vue statistique, apparaît comme un effet fixe d'un auteur, et ce qui peut provenir d'évolution au cours de sa carrière. Donc, par exemple, on peut essayer, l'un des points qu'on a essayé d'évaluer, c'est l'effet fixe des départements. Donc, on est parti de l'hypothèse que certains départements pourraient augmenter la productivité scientifique des gens qui s'y trouvent et d'autres la diminuer. Donc pour ça, on utilise les déplacements d'un auteur d'un département à un autre pour voir si, d'un point de vue agrégé, le fait pour un auteur de passer d'un département A à un département B va augmenter ou diminuer sa productivité scientifique, toutes choses égales par ailleurs. Voilà. Alors, du point de vue des départements, je vais d'abord donner une vision générale des départements et des facteurs de production. Alors, la concentration de la production entre les départements, elle est très faible. Elle est très faible et elle décroît aussi de manière importante au cours de la période dans laquelle on a fait l'étude. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui paraît étonnant. Donc on a une part du département le plus actif au niveau international dans notre production qui est de 1,8% sur l'ensemble de la période. Et cette part est passée de 2,15% dans la première période qu'on a étudiée, à seulement 1,7%. Donc on a une production scientifique, et ça c'est quelque chose qui est important, par exemple, pour mes collègues économistes qui avaient participé à l'étude, et qui ont fait cette étude, on a un étalement de la production scientifique qui est grande entre les pays et entre les départements, beaucoup plus grande peut-être que dans d'autres disciplines. Alors on peut l'expliquer par pas mal de raisons, à la fois peut-être l'âge de la discipline, le fait qu'il y a un besoin de mathématiciens qui est très large dans énormément d'universités, parce qu'il faut enseigner. Et donc, il y a énormément de départements qui sont des départements de recherche. Par exemple, pour reprendre le cas des États-Unis qui a été donné, je pense qu'aux États-Unis, il y a 150 départements qui délivrent des PhD et donc qui ont une recherche qui est vraiment reconnue. Et encore, on a de la recherche de qualité dans un certain nombre d'autres départements, même si elle n'est pas très, très, très importante. Donc, on a finalement, par rapport, encore une fois, à d'autres disciplines, on a un étalement plus important et qui augmente. Alors... De même, autre question qu'on peut se poser, c'est une question qui s'est beaucoup posée, c'est quelle est l'évolution de la productivité des mathématiciens avec l'âge. Là aussi, on a trouvé des choses qui étaient assez différentes de ce que la conscience collective avait tendance à accepter. Donc on est parti d'une vision où la productivité scientifique des mathématiciens était plutôt quand ils étaient jeunes, à une vision qui est différente telle qu'elle est mesurée, c'est-à-dire qu'on a une production qui augmente rapidement pendant les 10 premières années de la vie scientifique. Alors nous, ce qu'on appelle vie scientifique, c'est à partir de la première publication, encore une fois, parce que c'est le seul élément qu'on peut contrôler. Donc on a une productivité scientifique qui augmente rapidement et ensuite qui diminue très lentement. Elle diminue très lentement jusqu'à un âge très avancé, hein, donc à peu près 40 ans après la première publication. Vous allez voir que ça dépend des pays, ça c'est un point intéressant. Mais par contre, on a un taux d'attrition qui est assez élevé et qui se produit à tous les âges. C'est-à-dire que si on mesure la productivité scientifique parmi les gens qui continuent à publier, donc qui vont publier un article dans notre liste de 100 journaux au cours de leur vie, la productivité reste à peu près constante, mais vous avez une proportion des gens qui disparaît de la publication au cours de leur vie. Hein, et cette disparition, encore une fois, se fait à tous les âges. Ça, c'est quelque chose qu'on a finalement on ne sait pas vraiment expliquer. Hein, on le voit dans les données. On ne sait pas si c'est parce que les gens vont vers des tâches administratives, parce qu'ils se découragent de la recherche, parce qu'ils vont vers de l'enseignement, parce qu'ils vont prendre un autre boulot qu'un boulot académique. Tout ça, c'est des possibilités, c'est des hypothèses. Et un autre élément, donc, c'est qu'on a une différence importante dans la productivité scientifique en fonction de l'âge entre les pays. Hein, donc, par exemple, vous voyez qu'aux États-Unis, on a une productivité scientifique qui est à peu près maximum, qui est maximum à peu près 10 ans après la première publication, et ensuite qui reste à peu près stable jusqu'à à peu près 25 ans après la première publication. Et ensuite, la baisse n'est pas très importante. Si vous regardez la Grande-Bretagne, par exemple, vous avez un pic qui est légèrement plus tard et une décroissance qui est plus importante. En France, vous voyez, on a encore un autre profil, hein, un profil où on a une chute assez, assez importante entre 20 et 26 ans après la première publication. Et en Allemagne, je crois que la décroissance est plus marquée encore. Il faut se dire que le bout de la courbe ici n'est pas très significatif parce qu'on a finalement peu de monde, hein, pour des raisons démographiques. Les cohortes ne sont pas égales entre les années. Donc là, ça correspond, à mon avis, à des questions qui peuvent être intéressantes. Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'un pays a un taux de productivité scientifique qui reste à peu près constant, alors qu'un autre a un taux de productivité scientifique qui diminue plus rapidement? Donc on pourrait, par exemple, rapprocher ça du type de poste que les gens ont en Allemagne, par exemple, par rapport à la France ou aux États-Unis. Maintenant, du point de vue des individus, hein, donc on a par des moyens statistiques, hein, on définit une espèce de qualité intrinsèque des individus, hein, qui est en gros la production scientifique qu'ils ont au cours de leur vie, et on essaye de voir comment des facteurs variés peuvent influer sur la productivité scientifique des individus, hein, en les suivant au cours de leur carrière. Voilà, alors, quelques éléments. Donc, par exemple, un élément qui est massif, enfin, qui est significatif, très significatif dans notre étude, c'est le fait que la mobilité est positive. Hein, donc là, on a cherché aussi des éléments qui pourraient avoir une signification, que ce soit de type organisationnel ou politique. Hein, mais la mobilité est bonne, c'est-à-dire que la productivité augmente avec chaque déplacement. Chaque fois que quelqu'un bouge, il augmente sa productivité scientifique. Donc là, ça correspond d'une certaine manière à quelque chose qui correspond au vécu de beaucoup de mathématiciens. Je pense que c'est peut-être le cas dans beaucoup d'autres disciplines, peut-être pas. Mais le fait de se trouver dans un nouvel environnement scientifique permet de rencontrer des problématiques nouvelles, d'enrichir son spectre de compétences et donc d'augmenter finalement la qualité de ce qu'on va faire ensuite. Autre élément, la spécialisation est mauvaise. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on a fait comme analyse statistique dans cette étude, c'est regarder quelle était la diversité des sujets étudiés par les individus au début de leur carrière scientifique, mesurée par le nombre de sous-catégories des mathématiques dans lesquelles ils avaient une publication. Et on s'aperçoit que plus ils sont spécialisés jeunes, moins leur productivité scientifique évoluera de manière positive. Hein, donc si vous voulez faire des mathématiciens qui seront productifs 10, 20 ans plus tard, il faut leur donner un spectre de connaissances plus large au début. En tout cas, un spectre d'activité plus large au début. Hein, c'est ça qui va apparemment, en tout cas, c'est corrélé, hein, c'est corrélé avec leur le futur, une évolution positive future de leur productivité scientifique. Un élément moins évident et peut-être plus intéressant, c'est que la collaboration dans l'ensemble est mauvaise. Alors là, il faut quand même que je revienne sur notre indicateur. Hein, dans l'indicateur qu'on a défini, on a donné un certain poids à chaque article et on a divisé le poids des articles entre les auteurs. Donc la question qu'on peut se poser, c'est combien est-ce qu'on produit plus d'articles dans de très bonnes revues en travaillant avec plusieurs co-auteurs et en partageant en quelque sorte le résultat entre les co-auteurs, ou est-ce que c'est plus efficace de travailler seul? Et la réponse, c'est que le fait d'avoir beaucoup de co-auteurs diminue la productivité scientifique. Donc on peut imaginer qu'on a un coût de transaction hein, entre mathématiciens qui est assez important pour que, disons, la variété des apports soit compensée par le fait qu'il faut passer trop de temps à discuter ou à expliquer ou à interagir. Mais par contre, si vous collaborez avec des gens qui sont dans des spécialités disciplinaires différentes de la vôtre, là, pour le coup, la collaboration devient positive. Hein, donc on a quelque chose d'intéressant quand même à ce niveau-là. Vous voyez, donc si vous, là aussi, on a utilisé encore une fois le fait qu'on a des indicateurs très précis de discipline, de sous-discipline scientifique pour chaque article. Quand il y a collaboration entre des gens qui ont des spécialités différentes, ça correspond à une augmentation de leur productivité future. Alors, maintenant, les départements. Hein, bien sûr, on se pose la question, quels sont les départements, hein, comme je vous l'ai dit, qui vont augmenter la productivité scientifique de leurs auteurs. Et là, on a aussi quelques effets qui sont un petit peu intéressants. Alors, l'un des éléments, c'est que, de manière générale, ces effets fixes sont faibles. Donc, en d'autres termes, vous n'avez pas beaucoup, ils sont significatifs, mais faibles. Hein. Le fait de passer d'un département à un autre n'a pas l'air de jouer de manière importante pour le résultat des scientifiques. Par ailleurs, ils ne sont pas corrélés de manière importante à la taille des départements. Hein, donc on pourrait imaginer, par exemple, le fait d'aller dans un grand département, va, de manière générale, les grands départements vont avoir des effets plus positifs que les autres. Et en fait, ce n'est pas tellement vrai. Hein, ce n'est pas tellement vrai, les petits non plus, d'ailleurs. Et par contre, on peut dire que l'effet fixe des départements tend à être stable sur le temps. Alors, on avait un seul contre-exemple dans notre base, c'était très impressionnant. On avait un département, je ne sais pas si je vais le citer, qui avait un effet fixe très important. Et en fait, en analysant les données, on s'est aperçu d'un phénomène assez intéressant, c'est que ce département avait un journal, entre guillemets, local, où publiaient beaucoup les membres du département, qui était un journal qui avait un assez haut, une bonne notation dans notre indicateur. Et si on retirait ce journal, eh bien, le département redevenait normal. D'accord ? Donc, en fait, on a une explication extrêmement simple, qui n'est peut-être pas correcte, mais une explication possible. C'est que la seule raison pour laquelle ce département a un effet fixe important, c'est que c'est plus facile pour ses membres de publier dans la revue locale. Et par ailleurs, en fait, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a d'autres départements qui ont des journaux locaux, qui sont très bien classés, mais le même effet ne se produit pas. Vous voyez, donc on a une différenciation assez intéressante entre le fonctionnement des journaux. Et encore une fois, bon, cet élément-là, on l'a trouvé en analysant les données, mais il n'étonnait personne dans le milieu mathématique parce que c'est quelque chose qui était finalement intuité par un certain nombre de mathématiciens. Hein, que ce journal-là avait une politique de publication qui était très favorable vis-à-vis des membres du département. Bon, alors, encore une fois, peut-être que le département a en effet un effet fixe très positif et simplement les gens publient plus et ils publient en partie dans ce journal, on ne sait rien. Mais quand même, l'explication la plus logique, ça semble être celle-là. Voilà, alors une question qu'on s'est posée, c'est quel est l'effet de la spécialisation, hein, vous savez, ça c'est une question qu'on peut se poser en tant que directeur de département, par exemple. Est-ce qu'on a envie de se spécialiser ou au contraire d'être le plus large possible? Et là, la réponse qu'on a trouvée, que nous suggèrent les données, c'est que il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que la spécialisation est corrélée avec un effet fixe positif. Donc si vous êtes dans un département très spécialisé dans votre domaine, vous allez avoir tendance à publier un petit peu plus que dans un département qui est plus large. Mais par contre, la spécialisation est aussi corrélée avec une qualité moyenne de production qui est plus faible. D'accord ? Et là aussi, c'est quelque chose qui est assez heuristique, vous voyez, parce que si vous voulez avoir un département très spécialisé, vous allez restreindre votre gamme de recrutement possible et faire des recrutements qui, a priori, seront peut-être moins bons si vous avez une gamme de recrutement plus large. Donc vous allez avoir un département qui est légèrement plus positif pour ses membres, hein, parce qu'ils vont avoir plus de collègues dans leur discipline, mais par contre, il va être de qualité moindre que si vous avez une politique plus large. Et par contre, donc, la taille des départements a un output moyen légèrement plus élevé et un effet fixe légèrement plus élevé quand même. Voilà. Bon, du point de vue des départements, on a fait une sous-étude pour les départements américains au sens US. Pourquoi ? Donc, parce que c'est un domaine qui est peut-être plus facile à étudier pour nous, parce qu'il est homogène. Hein, donc, il y a une grande homogénéité, il y a des grandes différences entre les universités, comme ça vient d'être dit, mais il y a aussi une grande homogénéité, et il y a aussi beaucoup de déplacements. Hein, donc, du point de vue de notre étude qui jouait en partie sur les déplacements de départements, on pouvait faire cette étude de manière plus intéressante. Alors, l'un des éléments qui est très, très étonnant, c'est qu'on n'a pas d'effet, apparemment, de l'argent. D'accord ? Donc on peut penser que c'est spécifique aux mathématiques, mais l'endowment, donc on a évalué la richesse d'un département par l'endowment par étudiant de l'université, hein, ce qui est un indicateur probablement à peu près correct, et on ne voit pas de corrélation entre l'effet fixe d'un département et le fait pour un département d'avoir beaucoup d'argent. Hein, donc l'argent ne mène pas à la réussite en mathématiques, apparemment. Alors j'imagine que si on faisait l'étude en chimie organique, ça serait différent, parce que bien sûr, le prix des manips devient important. Quand on a un département qui est plus ouvert, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui arrivent, beaucoup de départements qui partent, ça correspond à une meilleure qualité moyenne des chercheurs, mais pas à un effet fixe supérieur. Et puis, on a une différence des universités privées par rapport aux universités publiques en termes de qualité moyenne. Hein, donc on a des universités qui ont des chercheurs plus productifs en moyenne, mais l'effet fixe n'est pas significativement plus important. Voilà. Et puis par contre, on avait un petit élément anecdotique qui était amusant. On s'est demandé si la côte Est et la côte Ouest étaient différentes. Et la réponse, c'est que oui, la côte Est produit plus hein, que la côte Ouest, et la côte Ouest produit plus hein, que le Midwest hein, en termes d'effet fixe. Alors, ce n'est pas significatif entre 1 et 2 et entre 2 et 3, mais entre 1 et 3, c'est significatif à 5%. Bon, alors, vous en pensez ce que vous voulez, mais ça mériterait presque d'être approfondi, parce qu'on a l'air de voir que certains lieux, quand même, sont un petit peu plus correspondent à des environnements qui sont peut-être plus encourageants. Voilà, donc je suis un peu en avance, mais je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention.